Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne. Bon, en Syrie, la fin des opérations militaires dans l'ouest du pays, annonce faite par le ministère syrien de la Défense. Le bilan des affrontements est très lourd, au moins 1000 morts, dont des centaines de civils. Témoignage dans ce journal d'habitants, témoins directs des tueries. 3 jours de deuil national en Argentine pour rendre hommage aux personnes mortes dans les inondations qui ont frappé Bahia Blanca. Vendredi, 16 morts pour l'instant et de nombreux disparus. La Russie annonce l'expulsion de 2 diplomates britanniques. Tous deux sont accusés d'espionnage. Ils ont 2 semaines pour quitter Moscou. 52 mesures annoncées par le gouvernement français pour préparer le pays à un réchauffement climatique de 4 degrés. Le détail de ce plan avec Simon Rosé. Enfin, nous terminerons en musique avec le 7e et dernier album de Lady Gaga qui vient de sortir.
RFI Midi.
La Syrie annonce la fin avec succès de l'opération militaire dans l'ouest du pays après des jours de combats contre des fidèles du régime déchu et des exécutions de masse de civils qui ont fait des centaines de morts.
Les violences sont les plus graves en Syrie depuis la prise du pouvoir le 8 décembre par une coalition dirigée par des islamistes qui a déposé le président Bachar al-Assad. Ces violences ont été déclenchées par une attaque sanglante jeudi dernier de partisans du régime déchu contre les forces de sécurité dans la région de Latakié, une région où se concentre la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. Les combats ont fait près de 500 morts des deux bords, c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'annonce, mais près d'un millier de civils en grande majorité alouites ont été tués dans des exécutions sommaires et des opérations de nettoyage ethnique. Ces derniers jours, RFI a pu obtenir plusieurs témoignages très poignants qui décrivent les événements qui se sont déroulés dans le nord-ouest syrien. Vous allez entendre le récit d'une habitante alaouite de la région de Jablé dont le père a été tué. Un récit d'Oriane Verdier et de Nicolas Falaise.
Elle s'appelle Yara, elle a 30 ans, elle est alaouite et vit dans un village de la côte syrienne. Le témoignage enregistré qu'elle nous a fait parvenir détaille avec précision les événements survenus jeudi et vendredi dernier. D'abord les rumeurs d'affrontements dans un village voisin, puis la visite de membres des forces de sécurité syriennes à la recherche de jeunes hommes du village. Le lendemain, vendredi 7 mars, des incendies sont allumés aux abords du village. Yara raconte l'arrivée d'assaillants armés. Nous avons vu des civils fuir et courir, craignant pour leur vie, dit-elle. Ils tuaient des gens de sang-froid, soit en les égorgeant, soit en leur tirant dessus. Tout le monde a été tué, y compris des jeunes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi les victimes, le père de la jeune femme. Ils l'ont appelé, nous dit-elle, et lui ont dit de regarder la caméra, puis ils lui ont tiré dessus. Il n'est pas mort immédiatement, alors ils lui ont encore tiré dessus. Ils nous tuent simplement parce que nous sommes alaouites. Nous n'avons fait de mal à personne et nous n'avons pas d'armes. Yara explique que les assaillants ont ensuite rassemblé les femmes, sa mère, sa sœur, elle-même, mais que les hommes armés sont finalement repartis sans les tuer. Yara évoque son village après l'attaque, plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité. Nous ne pouvons pas enterrer nos morts, dit-elle. Elle conclut son témoignage par ces mots. Ils nous ont tués comme des insectes, comme si nous n'étions rien, et ils rigolaient.
Des témoignages sur ces tueries dans le nord-ouest syrien recueillis par Nicolas Falaise et Oriane Verdier.
Une délégation israélienne attendue au Qatar dans la journée pour des négociations indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu à Gaza avec le Hamas.
Des médiateurs soutenus par les États-Unis ont invité les Israéliens pour faire avancer les négociations. Des responsables du Hamas sont arrivés, eux, hier à Doha après plusieurs réunions au Caire. Les désaccords entre les parties portent sur la 2e phase de l'accord qui prévoit, selon le Hamas, un cessez-le-feu permanent, le retrait complet israélien de Gaza et la libération des otages encore retenus dans le territoire palestinien. Israël, de son côté, souhaite une extension de la 1re phase du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril et réclame pour passer à la 2e phase la démilitarisation totale du territoire, le départ du Hamas du territoire palestinien qu'il dirige depuis 2007 et le retour des derniers otages.
Autre rendez-vous diplomatique en Arabie Saoudite, l'Ukraine se prépare à des discussions cruciales avec les États-Unis.
Dès aujourd'hui, le président Volodymyr Zelensky rencontre le prince héritier Mohamed Ben Salman pour préparer la réunion de demain à Jeddah entre une délégation ukrainienne et une équipe américaine. Première déclaration sur la messagerie cryptée Telegram du président ukrainien. L'Ukraine cherche la paix depuis la toute première seconde de la guerre, écrit-il. Et nous avons toujours dit que la seule raison pour laquelle la guerre se poursuit est la Russie. La réunion de demain est la première à ce niveau entre les deux pays depuis la visite très houleuse de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et son face-à-face tendu avec Donald Trump. Au menu des entretiens, la définition d'un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial entre la Russie et l'Ukraine. La Russie annonce l'expulsion de deux diplomates britanniques. Tous deux sont accusés d'espionnage. Ils ont deux semaines pour quitter Moscou. Londres a immédiatement réagi et dénonce des accusations malveillantes et infondées. Emeline Vin, vous êtes à Londres. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Le Royaume-Uni, donc, y voit surtout des représailles pour sa propre position diplomatique.
Oui, les deux Britanniques, un diplomate de 34 ans et l'épouse d'un autre diplomate, auraient fourni des informations erronées sur leur demande de visa et participé à des opérations d'espionnage, selon la Russie. Mais leur expulsion intervient 3 jours après que 3 ressortissants bulgares ont été jugés coupables à Londres d'espionnage au Royaume-Uni au profit de la Russie. En somme, ce renvoi serait une réponse directe au démantèlement du réseau. Les deux pays, le Royaume-Uni et la Russie, s'adonnent régulièrement à ce genre de représailles. Rien que l'année dernière, 7 diplomates britanniques ont été expulsés de Russie, à chaque fois pour des accusations d'espionnage jugées infondées par le Royaume-Uni. Il y a aussi le contexte plus large, hein. Ce sont les premières expulsions depuis le début des discussions de paix et du rapprochement diplomatique entre la Russie et les États-Unis. Discussion dont le principe est rejeté par le Royaume-Uni car elle n'inclut pas Kiev. Outre la promesse d'augmenter ses dépenses militaires, le Premier ministre Keir Starmer appelle depuis plusieurs semaines ses alliés à envisager l'envoi de troupes en Ukraine pour dissuader Moscou de continuer son invasion.
Merci beaucoup Emeline Vin.
Mac Carney sera le futur Premier ministre du Canada.
Il va remplacer Justin Trudeau qui avait présenté sa démission en janvier dernier. Mac Carney est un ancien banquier central de 59 ans, novice en politique. Il a obtenu près de 86% des votes des militants du Parti libéral au pouvoir. Dans sa première déclaration, il est monté au créneau contre Donald Trump, assurant dans un discours offensif que son pays gagnera et ne fera jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit. Une première réponse au président américain qui a lancé une guerre commerciale avec son voisin en imposant des droits de douane sur des produits canadiens, qui ne cesse de dire qu'il souhaite que le Canada devienne le 51e État américain. 3 jours de deuil national en Argentine pour rendre hommage aux personnes mortes dans les inondations qui ont frappé Bahia Blanca vendredi. Une tempête a ravagé cette ville portuaire de 350 000 habitants située à 650 km au sud de Buenos Aires. Le bilan est pour l'instant de 16 morts, mais il devrait augmenter. Marine de la Moissonnière.
Une centaine de personnes sont toujours portées disparues, dont 2 petites filles, 2 sœurs de 1 et 5 ans emportées par l'eau alors que leur mère tentait de les mettre à l'abri. Vendredi, une violente tempête s'est soudainement abattue sur la ville. Federico Sousbieles, maire de Bahia Blanca.
Il est tombé plus de 400 mm d'eau sur Bahia Blanca. Ça correspond à 70% de ce qu'il pleut d'habitude en un an. Et en plus, les canaux de dérivation de la ville ont reçu toute la pluie qui est tombée ailleurs, dans la région de Bahia Blanca.
Le gouvernement a envoyé des militaires prêter main forte aux autorités locales pour pomper l'eau et nettoyer les rues. Le courant a été rétabli dans la moitié de la ville. Des centres d'accueil et des cellules psychologiques ont été mis en place. Les écoles sont fermées aujourd'hui et demain. Et dans tout le pays, la solidarité s'organise. De nombreux clubs de foot notamment ont lancé des collectes pour venir en aide aux habitants de Bahia Blanca qui ont tout perdu. Selon le maire de la ville, il faudra 370 millions d'euros pour la reconstruire. Déjà en décembre 2023, Bahia Blanca avait été ravagée par une tempête qui avait fait 13 morts et provoqué des dégâts considérables.
Au Gabon, 4 candidats seulement sur 23 jugés aptes à participer à la présidentielle du 12 avril prochain.
Il s'agit du président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, d'Alain-Claude Billy Binze, dernier premier ministre d'Ali Bongo, du médecin Stéphane Germain Iloco, un ancien cadre du PDG, et Joseph Lapensé-Essigone, juriste, inspecteur des impôts. Le réchauffement climatique partout sur la planète et donc aussi en France. La France qui prend une cinquantaine de mesures pour préparer le pays à un réchauffement de 4 degrés. Le gouvernement vient de présenter son plan. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service environnement climat de RFI et vous étiez à cette présentation. 52 mesures, mais ce document, Simon, reste bien timide dans la façon de mettre tout cela en œuvre.
Oui, il y a l'impératif. La moitié des forêts françaises exposées au risque d'incendie en 2050, un cinquième des littoraux à risque de submersion et de recul du trait de côte. Les conséquences anticipées du réchauffement climatique sont lourdes. Il convient donc de s'y préparer et de s'y adapter. Agnès Pannier Runacher, la ministre de la Transition écologique.
L'adaptation au changement climatique, c'est la meilleure façon de protéger les Français contre la perte de leur maison et de leur patrimoine, le risque de perdre leur emploi, puisque 80% des emplois aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre liés à ce qu'on appelle les actifs naturels. On sait aussi que lorsqu'on investit contre des tempêtes, contre des grêles, ce genre de choses, 1 euro investi permet d'éviter 8 euros de dommages. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que ce sont des investissements rentables.
52 mesures, donc, du concret, comme des financements pour aider les villes, les entreprises et les particuliers à faire des travaux pour réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles, et du plus vague, comme le lancement d'une multitude d'études pour déterminer comment mieux adapter les transports, les logements, les exploitations agricoles. Les associations et acteurs de la transition écologique saluent la vision d'ensemble de ce plan, mais restent inquiets sur sa mise en œuvre. Elle demandera de l'argent et du suivi dans le temps, faute de quoi ce plan national d'adaptation au changement climatique viendra grossir les étagères poussiéreuses des plans oubliés.
Merci beaucoup Simon Rosé pour tous ces détails de ce plan.
En France toujours, le fléau du harcèlement scolaire fait la une des journaux aujourd'hui. Plus d'un élève par classe est concerné en moyenne dans une grande majorité des cas. Le harcèlement est le fait d'autres élèves, mais aujourd'hui, un procès inédit s'ouvre dans le pays.
Oui, car pour la première fois, une enseignante est poursuivie pour harcèlement sur mineur. Elle est accusée d'avoir harcelé l'une de ses élèves, Eva L., qui s'était suicidée en 2019. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
En direct du tribunal judiciaire de Pontoise, près de Paris, où le procès a débuté ce matin, avec, Baptiste, les premiers mots de la prévenue.
Oui, les premiers mots de l'enseignante. Sa voix est à peine audible quand elle s'avance à la barre dans un costume bleu marine et à quelques mètres de la famille d'Evaël. La présidente s'intéresse d'abord à son parcours professionnel, celui d'une enseignante exemplaire, sérieuse, agréable d'après les évaluations administratives. Mais un avocat de partie civile rapporte les propos d'une proviseure. Elle disait de vous que vous pouviez vous acharner sur un enfant, rabaisser des élèves. L'enseignante s'étonne de tels propos, puis évacue. Ce n'est pas ce qu'elle a dit de moi pendant 10 ans. Face aux enquêteurs, des élèves ont pourtant raconté des faits similaires. Et concernant Eva L., des mises à l'écart, des humiliations répétées devant ses camarades, voire des insultes, des agissements qui, d'après ses parents, auraient renforcé les brimades qu'elle subissait déjà d'autres élèves jusqu'à son suicide en 2019. Alors en ce moment, la Cour entend le principal de l'ancien collège d'Eva L. Les lenteurs, les défaillances de l'administration transparaissent à travers son témoignage, tout comme cet esprit de corps, ces enseignants qui ont toujours soutenu celle qui se retrouve aujourd'hui face à la justice.
Merci beaucoup Baptiste Coulon, vous étiez en direct du tribunal judiciaire de Pontoise. Le procès doit durer jusqu'à demain soir, l'enseignante risque jusqu'à 2 ans de prison.
Et on termine votre journal en musique, Olivier.
Mayhem, c'est le titre du nouvel album de Lady Gaga, le 7e de la star de la pop, un album dont elle a distillé certains titres ces derniers mois pour faire le buzz, un album où elle revient aux sources de son inspiration musicale, parfois avec des allures de rétro-pédalage, Olivier Roger.
Abracadabra, c'est le titre de ce morceau, une formule magique pour une artiste qui ne la trouve visiblement plus depuis quelques années. Lady Gaga a en effet connu des insuccès au cinéma mais aussi en studio. Mayhem se veut un retour aux sources. Hélas, on ne peut pas toujours être et avoir été, et Mayhem collectionne de façon assez stéréotypée les références aux glorieuses années 90, le tout sous la houlette de ses producteurs historiques, accompagnés sur 3 morceaux par le français Geza Feldstein. Guitare et scansion funk sur ce titre qu'il y a, mais Lady Gaga ne démontre qu'une chose, Prince est bel et bien mort, elle ne pourra pas le ressusciter. Les inconditionnels de la star jugeront qu'elle renoue avec la veine de The Fame, son masterpiece de 2008. Les plus exigeants se souviendront qu'à l'époque elle chantait ceci, la roulette russe ce n'est pas pareil sans armes. On serait tenté d'ajouter en la voyant copier une autre italo-américaine célèbre que la pop ce n'est pas pareil sans Madonna.
Voilà Lady Gaga, RFI Midi se poursuit avec vous Anne Cantner.
Merci Olivier Sherman, à tout à l'heure. 13h15 à Paris, on va parler de l'actualité sportive avec vous Solène Ravenel, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence par du football en Angleterre. Liverpool se rapproche un peu plus du sacre en Première Ligue.
Parce que son dauphin Arsenal laisse encore filer des points. Troisième match sans victoire en championnat pour les Gunners qui ont désormais 15 longueurs de retard sur les Reds. Match nul 1-1 contre Manchester United. Le portugais Bruno Fernandes a ouvert le score pour les Red Devils en fin de première période avant l'égalisation de l'anglais Declan Rice. Arsenal a sauvé le point du match nul en fin de rencontre alors qu'il a été supérieur dans le jeu. Selon son entraîneur Mikel Arteta, qui regrette de ne pas avoir su saisir les opportunités.
Aujourd'hui, notre efficacité dans les 25 derniers mètres n'a pas été à la hauteur, on le sait. On a fait beaucoup de choses qu'il fallait faire pour espérer gagner à Old Trafford, mais à l'arrivée, il faut réussir à concrétiser quand on domine à ce point. On n'y est pas parvenu et il a ensuite fallu renverser la situation. On sait à quel point c'est compliqué ici, donc il a fallu s'exposer et prendre des risques et on aurait même pu perdre ce match dans les dernières minutes.
Arsenal reste deuxième avec 4 points d'avance sur Nottingham Forest qui complète le podium. De son côté, Manchester United pointe à la 14e position.
La Ligue 1 en France et les Niçois qui laissent passer une occasion après leur défaite 2-0 face à l'Olympique Lyonnais.
L'OGC Nice avait l'occasion de reprendre la deuxième place du championnat à l'Olympique de Marseille, mais les Aiglons se sont inclinés à domicile face aux Lyonnais 2-0 après des buts de Ryan Cherki et du Ghanéen Ernest Nouama. Pour le premier match de Paulo Fonseca en tribune après sa lourde suspension, l'OL a donc réussi à se montrer efficace après avoir su faire le dos rond, comme l'explique le défenseur sénégalais Moussa Niakate au micro de DAZN.
C'est un peu ça, mais c'est pas forcément volontaire. Si on pouvait accélérer dès les premières minutes, on le ferait. Mais en face, à chaque fois, on a des belles équipes. Nice, je crois, était invaincu à domicile. Donc on a plutôt bien géré défensivement en première, mais on était venu pour gagner parce qu'on savait qu'en gagnant, on faisait une belle opération. On savait qu'on recollait à quelques points devant et on sait que la semaine prochaine, il y a des concurrents directs qui ont des très gros matchs. Donc c'est une belle opération, magnifique opération.
Au classement, l'OL est 6e à 4 points du podium et de Nice qui reste donc 3e.
Et en Espagne, le Real Madrid revient à la hauteur du Barça.
À quelques jours des 8e de finale, retour de Ligue des Champions où ils retrouveront leurs voisins de l'Atlético. Les Merengues ont battu le Rayo Vallecano 2-1 grâce à Mbappé et Vinicius. Ils se hissent donc à la première place à égalité avec le Barça, dont le match face à Osasuna a été annulé suite au décès du médecin du club. L'Atlético complète le podium après sa défaite 2-1 contre Rétafé.
Et on part à Londres pour parler rugby.
Les Anglais se sont largement imposés face aux Italiens 47-24. Le 15 de la Rose reste donc dans la course pour la victoire dans ce tournoi Destination 2025. Tout se jouera donc le week-end prochain. Les Anglais devront l'emporter à Cardiff face au Pays de Galles. De leur côté, les Bleus devront s'imposer contre l'Écosse. Ils seront sans leur capitaine Antoine Dupont, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés et pour qui la saison est terminée.
Et puis pour finir, un pot de basket en NBA avec une autre blessure.
Celle de LeBron James, beaucoup moins grave celle-ci, mais quelques jours après avoir passé la barre symbolique des 50 000 points marqués dans la Ligue nord-américaine, la star des Lakers s'est blessée à la cuisse samedi. Il sera absent au moins 2 semaines selon les médias américains. Et pour eux, tout va bien. On parle bien sûr des cavaliers de Cleveland qui impressionnent toujours autant. Déjà qualifiés pour les playoffs la semaine dernière, les premiers de conférence Est ont battu hier soir les Milwaukee Bucks et enchaînent une 14e victoire de rang.
Merci Solène Ravenel. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr.
RFI Midi, Anne Cantner.
On en parlait dans le journal il y a quelques minutes. Le gouvernement syrien a annoncé il y a 2 heures environ la fin de l'opération dans l'ouest, dans les villes côtières où des combats ont opposé des fidèles de l'ancien régime Assad à la nouvelle armée. Combats particulièrement meurtriers et notamment pour des civils. Il y a eu des massacres d'Alaouites. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de plus d'un millier de morts. Bonjour Ariad Ranem.
Bonjour.
Chercheur franco-syrien, docteur en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Pourquoi est-ce que le nouveau régime a fait appel lors de ces combats à des milices, à des groupes par lesquels il semble avoir été en fait un peu débordé ?
Alors, c'est une très bonne question. Si vous voulez, la question que vous posez, c'est celle de la relation entre le nouveau pouvoir et ses factions qui sont venues de l'Est, qui ont déferlé sur la côte avec un message clair qui était « nous allons massacrer des Alaouites ». C'est des milices qui ont profité d'un moment, justement, vous le disiez, des loyalistes pro-Assad avaient attaqué quelques jours auparavant des membres des nouvelles forces de sécurité réglementaires. Et dans le cadre de l'opération menée par le nouveau pouvoir contre ces loyalistes, ces factions sont revenues de l'Est. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir la chaîne de commandement, si vous voulez, qui mène jusqu'à ces massacres par ces factions, parce que les factions elles-mêmes sont très divisées. Ce qui est sûr, c'est que ces factions sont toujours actives, alors même que le pouvoir avait prononcé en principe leur dissolution fin janvier, au moment même où il avait annoncé la création d'une nouvelle armée réglementaire en Syrie.
Parmi ces groupes qui sont venus soutenir, si on peut dire, l'armée syrienne, il y avait des milices proches de la Turquie. Est-ce que vous pensez qu'Ankara a pu jouer un rôle dans ce qui s'est passé ?
C'est encore une fois, c'est assez difficile à dire pour l'instant. Si vous voulez, il y a deux récits aujourd'hui qui sont très importants. Il y a le récit géopolitique. Les questions que vous posez sont très judicieuses. Quel est le rôle de la Turquie, dont on voit effectivement la présence grandissante et la proximité très importante avec le nouveau pouvoir? Le nouveau pouvoir, lui, accuse de son côté l'ingérence de réseaux iraniens. Ça reste également à vérifier. Ça, c'est un récit. L'autre récit, c'est le récit du terrain. C'est des violences qui sont quand même aussi localisées dans le contexte syrien, qui est un contexte dont on sort, comme vous le savez, de 55 ans de dictature, de 14 ans de guerre civile. Et c'est un contexte où, visiblement, le nouveau pouvoir n'a pas su, jusqu'à maintenant, accorder une priorité assez importante au sujet, justement, de la conciliation. Parce que les luttes entre factions radicalisées d'un côté, loyalistes pro-Assad, de l'autre, islamistes très radicales, c'est une réalité très sanglante, des centaines de civils alaouites morts ces derniers jours, mais qui montre aussi une réalité sous-jacente qui est tout aussi grave et durable, celle de la division, en fait, et de la division sur des lignes confessionnelles qu'on voit aujourd'hui en Syrie.
L'une des grandes forces, pourtant, des nouvelles autorités, c'était d'avoir pris le pouvoir sans violence, enfin sans effusion de sang, en tout cas majeure, et puis en promettant de protéger toutes les communautés. C'était une illusion de penser que ça serait possible ?
C'était un espoir, moi je vous le dis, en tant que personne, vous l'avez dit, je suis franco-syrien, après des années de dictature et de guerre civile, nous avions un espoir que les choses évoluent d'une manière différente, sans oublier une seconde, le passé et bien sûr des mouvements qui ont pris le pouvoir à Damas, et la défiance restait, mais les gages apportés par le nouveau pouvoir lorsqu'il est arrivé était à même de générer une forme d'espoir. Malheureusement, ça n'a pas été transformé en acte. C'est-à-dire que le nouveau pouvoir a su dialoguer avec certaines communautés, mais pas avec d'autres. Avec les Alaouites, par exemple, ça s'est avéré très compliqué, alors même que les Alaouites, dans leur immense majorité, avaient lâché le régime d'Assad ces dernières années et étaient disposés, pour la grande majorité d'entre eux, encore une fois, à rentrer dans le mouvement de transition. Le nouveau pouvoir n'a pas su non plus construire un moment de conciliation nationale en dehors de cette unique journée de dialogue national qu'il a organisé en février. Ça ne suffit évidemment pas à revenir sur les vérités, les responsabilités des crimes de 50 ans de dictature, 14 ans de guerre civile.
D'ailleurs, au moment de cette conférence nationale, la question de la justice, on avait beaucoup parlé de la justice traditionnelle, avait été un peu laissée de côté.
Exact. Et visiblement, le nouveau pouvoir a laissé libre cours à une vision de la justice transitionnelle par le bas, et notamment par les factions les plus radicalisées, ce qui explique que ces dernières semaines et mois, lors de nombreuses opérations qui devaient en premier lieu poursuivre, à juste titre, les criminels du régime passé, beaucoup d'abus ont été commis, beaucoup d'arbitraires a été observé, et une logique malheureusement confessionnelle a émergé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est malheureusement sur le terrain moins dans une lutte contre l'ancien régime, mais plus sur des lignes alaouites sunnites.
Vous nous le disiez, la majorité des membres de la communauté alaouite ne soutiennent plus Bachar al-Assad. Il y en a quand même quelques-uns, on a pu le voir il y a quelques jours, puisqu'il y a eu cette offensive. De quels moyens disposent-ils ces fidèles de l'ancien régime ?
Alors, il faut parler avec beaucoup de prudence. On était tous surpris justement de voir que l'armée syrienne de Bachar el-Assad n'avait pas du tout résisté à l'offensive début décembre. Quand on connaissait l'état de délitement de cette armée et de ce régime qui n'avait plus aucune légitimité, bien sûr, du fait de tous ces crimes passés, mais même vis-à-vis des minorités qu'il avait su garder de son côté pendant un temps, depuis plusieurs années, ce n'était plus le cas. On se demandait où ils étaient passés, tous ces soldats, où était passé le très redoutable 4e régiment de l'armée qui avait été dirigé longtemps par le frère de Bachar el-Assad, Maher, où était passée la garde républicaine. Beaucoup avaient lâché leurs armes. Beaucoup ont fui, mais certains, effectivement, sont restés. Mais vous me demandez quelle est la ressource aujourd'hui pour ces réminiscences de l'ancien régime, il y a la division et l'antagonisme communautaire sur lequel les Assad ont joué pendant des années. Ça, c'est une ressource pour eux, certainement.
Merci beaucoup, Ariad Ranem, d'avoir été en ligne avec nous. Chercheur franco-syrien, vous êtes docteur en relations internationales et enseignant à Sciences Po à Paris. On l'aura compris, vous êtes spécialiste des Alaouites et de leur mode d'internationalisation face au conflit syrien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RFI Midi. Je vous propose maintenant de découvrir le témoignage d'un homme qui a été totalement privé de liberté, enfermé, menacé par des réseaux d'escroquerie en ligne. Il est chinois, il s'appelle Su et il raconte à notre correspondante Cléa Broadhurst et à Che Xianwan comment il a été piégé, attiré jusqu'à la frontière birmane, puis emmené de force dans un centre où il a dû travailler comme des milliers d'autres en Asie du Sud-Est pour répéter et répéter des arnaques en ligne générant des milliards de dollars.
Une fois arrivé dans le centre, Su explique qu'il travaillait sans arrêt tous les jours de 10h30 à 2h du matin et que tout était étroitement contrôlé.
Chaque personne recevait un ordinateur et quatre téléphones Apple équipés de cartes SIM birmanes, tous d'occasion. Là, on créait des comptes Gmail, puis Facebook, Instagram. On gérait 20 comptes chacun. Il y avait 14 équipes et projets de fraude. L'équipe dont je faisais partie se concentrait sur la crypto-monnaie. Des personnes pouvaient transférer leur monnaie locale sur la plateforme d'échange OKX, qui est reconnue internationalement, sauf en Chine continentale, où elle n'est pas autorisée. Après avoir transféré de l'argent, elle pouvait utiliser des dollars américains pour acheter des crypto-monnaies. L'objectif ultime restait de guider le client dans son investissement. Il n'y avait pas de script fixe, juste quelques tactiques générales.
Su raconte que de nombreux Chinois étaient enfermés dans ces camps et que le flot d'arrivées ne cessait jamais. Tous les jours, dit-il, on venait sélectionner certains individus.
Si vous n'étiez pas choisi dans les 30 jours, ils vous emmenaient dehors dans un véhicule à Miawadi ou la frontière thaïlandaise pour se faire prélever les organes. Deux reins pouvaient se vendre 500 000 yuans. Si vous étiez jugé qualifié, ils vous exploitaient au maximum. Si vous n'étiez pas sélectionné, ils vous forçaient à déverrouiller votre téléphone en scannant votre visage. Ils chargeaient votre téléphone, le connectaient au Wi-Fi et utilisaient votre visage pour accéder à des applications chinoises telles que WeChat, Alipay et des cartes bancaires pour transférer le plus d'argent possible.
Ceux qui résistaient étaient sévèrement punis, raconte-t-il.
Le premier jour, les gardes ont tiré sur 11 personnes dans la cour. 4 sont mortes sur le coup, les 7 autres étaient encore en vie. Là, ils ont trouvé une autre victime qui prétendait être vétérinaire en Chine continentale et lui ont demandé d'extraire les balles sur leur corps. Le processus était diffusé en direct sur Telegram. Ils nous montraient aussi des vidéos d'autres centres d'escroquerie pour nous montrer des gens se faire punir. Ils utilisaient de l'eau bouillante pour la verser sur les orteils de quelqu'un, puis pliaient les articulations en arrière. Et tout était diffusé en direct via des comptes Telegram et WeChat. Ils utilisent cela comme une forme d'intimidation, en particulier ceux qui viennent d'être vendus. C'est une façon de donner l'exemple, à la fois pour les personnes sur place et pour les autres qui participent à différentes opérations frauduleuses et qui regardent la diffusion en direct. C'est ce genre de choses qui fait que les gens craquent complètement après y avoir passé un certain temps.
La famille de Su a réussi à négocier son retour en Chine après avoir en tout payé près d'1 million de yuan, soit près de 130 000 euros. Cléa Broadhurst, Che Xianwan, Pékin, RFI.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Bonjour, je m'appelle Kavish, je viens de Pays-Bas. Pour moi, c'est moyen de pratiquer mon français parce que je n'utilise jamais le français dans un contexte hebdomadaire ou professionnel.
Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.
ce mardi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Revanche immédiate pour le PSG. 6 jours après sa défaite in extremis, le club parisien va retrouver Liverpool à Anfield. Il faudra absolument l'emporter par 2 buts d'écart face au partenaire de Mo Salah pour espérer se qualifier. Liverpool-PSG, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. C'est à vivre en direct et en intégralité ce mardi à partir de 19h41 sur RFI.